Ebola en France. Pour la première fois, un cas a été diagnostiqué chez un médecin revenant de République démocratique du Congo, là où l'épidémie sévit. Cet homme est soigné à Paris à l'isolement. Il est toutefois susceptible d'avoir contaminé d'autres personnes. Mais les autorités rassurent, pas de quoi craindre une épidémie en France. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois une infectiologue spécialiste du virus Ebola, la docteure Marie Jaspard. Je l'interroge, comment ce malade est-il pris en charge à Paris ? Quel est le risque qu'il contamine d'autres personnes en France ? Et sommes-nous condamnés à craindre Ebola ? Un vaccin existe, mais pas adapté à la souche qui sévit actuellement. Quant au traitement, on en est encore au stade de la recherche. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue. Il est 9h23 du matin ce mardi 23 juin. Le vol Air France 736 en provenance de Kinshasa atterrit à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. À bord, il y a un médecin. Il était en République démocratique du Congo pour l'ONG humanitaire Alima. Au moment d'embarquer, pour rentrer en France, il se sent bien. Rien à signaler. C'est pendant le vol qu'il commence à ressentir des maux de tête, avant que son état se dégrade légèrement. À son arrivée, il est transporté à l'hôpital, mis à l'isolement dans une chambre spéciale, une chambre double flux, avec une ventilation particulière qui empêche la circulation de l'air vers l'extérieur. Oui, parce que le diagnostic est tombé, le médecin humanitaire a contracté Ebola. Le ministère de la Santé se veut tout de même rassurant. Sa charge virale est très faible.
On ne sait pas s'il a été dépisté dans le cadre du suivi qui est mis en place pour les humanitaires qui reviennent de la zone où circule activement le virus de RDC, de République démocratique du Congo.
Margot de Frouville est la chef du service santé de BFM TV.
La priorité, c'est l'enquête épidémiologique pour retracer les éventuels cas contacts.
La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, rassure en précisant que le médecin était asymptomatique en entrant dans l'avion, et ça a son importance.
Il y a un point positif, c'est que la transmission, selon les spécialistes, ne se fait pas en l'absence de symptômes. On n'est pas transmissible avant de présenter des symptômes. Donc ça réduit quand même la fenêtre de contamination possible, mais il va falloir retracer toutes les personnes qui ont pu être en contact avec ce médecin à partir du moment où il a déclaré des symptômes jusqu'à son admission dans une chambre à pression négative dans un hôpital de référence.
Mais il pourrait tout de même y avoir 5 cas contact, 5 personnes identifiées comme ayant été en contact donc avec le malade à bord de l'avion. Elles doivent maintenant respecter un isolement à domicile pendant 21 jours. De son côté, l'ONG Alima cherche à comprendre comment la contamination du médecin a-t-elle pu avoir lieu. L'organisation assure que toutes les mesures de prévention de contamination ont été mises en place pour préserver ses équipes. Lorsqu'ils sont en contact avec un malade, par exemple, les travailleurs humanitaires sont tenus de respecter une quarantaine de 3 semaines. Il faut dire que le temps d'incubation du virus, le temps pendant lequel il se développe après la contamination, peut aller jusqu'à 3 semaines. Cela fait plus d'un mois que l'épidémie d'Ebola sévit en RDC. C'est la 17e épidémie d'Ebola dans le pays, mais cette fois, elle est due à l'espèce Bundi Bugyo, une souche rare contre laquelle il n'existe ni vaccin, ni traitement. Taux de mortalité, environ 1 malade sur 4.
Nous avons très peur. Depuis que ce mois de mai a commencé, beaucoup de gens sont morts et ça continue. Nous avons très peur. Ce qui se passe est que si quelqu'un a des maux de tête, de la fièvre ou mal au ventre, il meurt après un moment. À côté d'ici, il y avait un garçon de moins de 30 ans. Il est arrivé dans le village hier et aujourd'hui, nous avons appris qu'il était mort.
Comme une personne humaine, parce que vous savez, nous avons des enfants, il est à l'école. Alors, il raconte quand même beaucoup déjà, et on ne sait pas si réellement il peut en y arriver, quand même raconter qui, ou soit jouer avec qui. Et une fois qu'il rentre à la maison, il peut quand même contaminer toute une famille.
Cette épidémie en RDC est particulièrement importante comparée aux autres épidémies d'Ebola déjà survenues en Afrique, avec le plus grand nombre de cas confirmés au cours du premier mois.
Despite the good progress we have made,
malgré les progrès importants que nous avons réalisés, nous sommes toujours confrontés à de grands défis et l'épidémie continue de dépasser la riposte.
Tedros Adhanom Ghebreyesus est le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
On compte désormais 1094 cas confirmés et 277 décès. Le plaidoyer politique et l'action sont donc essentiels pour créer les conditions d'un meilleur accès humanitaire, car l'épidémie survient dans une situation complexe.
Outre la RDC, seuls deux autres pays sont concernés par cette épidémie d'Ebola. L'Ouganda voisin, avec 20 cas confirmés, et désormais la France.
Chaque fois qu'un cas survient en Europe ou dans d'autres régions du monde en dehors de l'Afrique, je constate une réaction excessive. Mais je ne pense pas qu'une telle surenchère soit nécessaire. Il n'y a pas lieu de paniquer.
Alors, faut-il craindre une pandémie, une épidémie mondiale ? Non, dit l'OMS.
Au cours des 50 dernières années, le nombre de cas détectés en dehors de l'Afrique est inférieur à 30. Bien sûr, il y a des milliers de cas en Afrique, mais moins de 30 dans le reste du monde. En 50 ans, le risque pour le reste du monde est donc faible.
Le cas en France rappelle surtout les risques auxquels sont exposés les intervenants de première ligne, analyse le chef de l'OMS, pas plus. Quant à la recherche, pourra-t-on un jour trouver un remède ? L'Organisation mondiale de la santé y croit.
L'OMS et nos partenaires travaillent en étroite collaboration avec les communautés pour les informer et les associer à l'essai. Nous œuvrons également à garantir que les communautés aient accès à ces traitements s'ils s'avèrent sûrs et efficaces.
Bonjour, docteur Marie Jaspard.
Bonjour.
Vous êtes médecin infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Ce patient donc pris en charge à Paris est hospitalisé dans une chambre placée à l'isolement. À quoi ressemble sa prise en charge ?
Alors, dans l'ensemble, quand on prend en charge un patient atteint de maladie à virus Ebola, quelle que soit l'espèce, que ce soit du Ebola Zaïre qu'on connaît bien ou bien du Ebola Bundibugyo qu'on découvre un peu lors de cette épidémie, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'il faut déjà isoler le patient pour protéger la communauté et les soignants dans une chambre, comme vous l'avez dit, assez hermétique, si je puis dire, et ensuite prodiguer des soins qui sont évidemment plus compliqués du fait de cet isolement. Il faut imaginer ces chambres comme des chambres fermées, évidemment, avec notamment un sas devant la chambre pour s'habiller et se déshabiller, mettre une tenue de protection très adaptée, assez lourde et assez compliquée à mettre, et très protocolisée, l'habillage et le déshabillage. Et donc, une fois qu'on a cette tenue, on peut rentrer dans la chambre et prendre en charge le patient. Sauf que vous imaginez bien qu'avec cette tenue que vous avez peut-être vue dans les informations à la télévision ou quoi, c'est beaucoup plus compliqué de prodiguer des soins. On est assez limité par nos mouvements.
On est recouvert de plastique, en gros.
Exactement. Et moi, je l'ai porté beaucoup en Guinée, au Congo, il y a quelques années, et puis dans les différentes épidémies. On est recouvert de plastique. On a une espèce d'énorme combinaison jaune. Alors, jaune ou d'une autre couleur, mais en tout cas, moi, elle était jaune. Assez épaisse, en plastique, la tête aux pieds avec une espèce de capuche sur la tête. Ensuite, on a une autre capuche sur la tête. On a comme un masque de ski sur les yeux. On a un masque aérien sur la bouche. On a deux paires de gants, souvent un tablier supplémentaire devant et souvent des chaussures ou des bottes en plastique un petit peu hermétique. C'est quand même un processus compliqué à l'habillage et le déshabillage. Il y a toute une procédure pour retirer ça de manière sécuritaire dans le sas qui est devant la porte.
Compliqué donc de prodiguer des soins, mais quel type de soins est-ce qu'il faut prodiguer à ce type de malade ?
Pour l'instant, comme vous le savez, il n'y a pas de traitement spécifique pour cette espèce d'Ebola. Quoi qu'il arrive, toutes ces maladies virales nécessitent un traitement symptomatique. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est très compliqué. C'est des techniques de réanimation assez connues pour toutes les maladies qu'on connaît. Par exemple, donc c'est une perfusion, une pose d'une voie veineuse, une perfusion, une transfusion de sang, éventuellement, si nécessaire. On fait des prises de sang pour voir l'état hydroélectrique du patient, l'état d'hydratation, l'état du foie, l'état des reins. Tout ça, il faut le surveiller tous les jours, voire deux fois par jour si besoin. Et en fonction des résultats, on adapte notre prise en charge. Donc, ou on augmente l'hydratation, ou on ajoute des médicaments supplémentaires, ou on fait une dialyse si les reins lâchent. On met de l'oxygène si le patient en a aussi besoin. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les soins de support. C'est hyper important sur ces maladies-là, comme il y a assez peu de traitements disponibles. Et quand on fait bien notre travail de soins de support, on arrive à aider beaucoup les patients et à en sauver une bonne quantité.
En l'occurrence, ce malade est touché par une charge virale très faible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il est moins malade, moins violemment ? Il sera malade moins longtemps ? Il est moins contagieux ? Ou rien de tout ça ?
C'est difficile. La charge virale, au sens général, donc c'est la quantité de virus qui circule dans le sang des patients. Et donc, en effet, on fait le diagnostic pour tout le monde en mesurant la charge virale. Au début, on a un premier diagnostic qui dit si c'est positif ou négatif, et ensuite, combien il y a de virus dans le sang. Et ça, c'est vrai que ça a un gros impact. Les gens qui ont une charge virale élevée sont généralement plus graves que ceux qui ont une charge virale faible. Pour la contagiosité, on ne sait pas très bien. Donc là-dessus, il faudra qu'on sache plus si les charges virales faibles sont moins contagieuses ou plus contagieuses. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore bien identifié. Ce qu'on sait, c'est que les gens sont plus contagieux s'ils ont des symptômes qu'on appelle excrétants, c'est-à-dire des diarrhées, vomissements ou des saignements extériorisés. Là, on sait qu'ils sont plus contagieux que les autres. Et donc, dans ces cas précis, quand ils ont ces symptômes-là, il faut être d'autant plus vigilant sur l'isolement. Mais pour la sévérité, la charge virale élevée est un marqueur qui va orienter vers une sévérité ultérieure plus importante.
Quel est le risque de contamination d'autres personnes en France, à vos yeux, aujourd'hui ?
Il est assez faible aujourd'hui. C'est très difficile à prédire, évidemment, parce qu'on dit des choses et puis après, l'état des connaissances change. Donc aujourd'hui, on est le 25 juin. De ce que je connais de la maladie à virus Ebola, et donc j'en ai fait plusieurs, j'ai travaillé en Guinée, en RDC, donc il y a eu beaucoup d'épidémies que j'ai suivies. On a eu très peu de cas lors des précédentes épidémies sur le territoire français, en Europe, même aux États-Unis, au sens un peu d'exportation de cas. Et dans les cas où il y a une exportation de cas qui se fait, donc comme c'est le cas actuellement, une personne qui a été hospitalisée en France, il y a très rapidement des mesures d'isolement qui sont mises en place parce que la France et les autres pays européens aussi sont très préparés à ce genre de situation. Et donc très vite, les patients sont isolés, très vite, on les prend en charge, donc le risque de transmission sur le territoire est faible. Il faut quand même noter que pourquoi ça diffuse, notamment dans l'est du Congo actuellement. Premièrement, parce qu'il y a eu un délai assez long entre les premiers cas et la déclaration d'épidémie. Donc pendant tout ce temps-là, les gens ont été malades sans que ça se sache et donc continuer à circuler sans être isolés. Donc ça fait beaucoup augmenter la dynamique de l'épidémie. Autre chose, c'est que la population au Congo prend soin des gens. C'est-à-dire que quand vous êtes malade dans l'est du Congo, en général, c'est votre famille qui s'occupe de vous pendant un bon moment avant de vous emmener à l'hôpital. D'autant plus dans le contexte actuel où vous savez que c'est une zone en guerre. Et donc, quand c'est la guerre, on va beaucoup moins à l'hôpital, on reste beaucoup plus à la maison et on se soigne à la maison. Et donc là, les patients contaminent tout le foyer assez rapidement puisqu'ils restent à la maison pendant leur maladie. En France, quand vous êtes malade, en général, vous êtes à l'hôpital. Et dans ces contextes-là, vous contaminez potentiellement l'infirmière d'accueil aux urgences, mais après, ça va assez vite s'arrêter.
Donc, quand on entend le chef de l'Organisation mondiale de la santé dire « il n'y a pas de lieu de paniquer », vous êtes d'accord, la France et l'Europe sont à l'abri d'une épidémie d'Ebola ?
Alors, en général, j'aime pas trop qu'on panique parce qu'on fait un peu n'importe quoi. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Je pense qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il faut qu'on continue notre préparation. La France, en tout cas, et l'Europe aussi, à ce que je comprends des autres collègues européens, est préparée. Les centres de prise en charge sont présents, les gens sont formés, le matériel est disponible. Et surtout, la meilleure façon de lutter contre une épidémie, c'est d'aller soigner les gens sur place pour éviter que l'épidémie flambe et pour éviter qu'il y ait des cas secondaires. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre notre énergie. Sachant qu'on est bien préparé, notre énergie doit être sur place au Congo pour aider les collègues congolais, soigner les patients au Congo pour limiter la source de l'épidémie.
Avec l'espoir peut-être d'avoir un vaccin, or le seul vaccin disponible est adapté à une autre souche, la souche Zaïre. Or là, on l'a dit, cette épidémie est liée au Bundibugyo. Les spécialistes toutefois sont partagés, ce vaccin pour la souche Zaïre pourrait être adapté. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'un nouveau vaccin pourrait voir le jour ?
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la phase où on réfléchit à tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux ou même plutôt trois vaccins nouveaux qui sont en cours de développement contre cette espèce Ebola Bundibugyo. Donc ça, c'est du développement qui va se faire et qui va être très accéléré. Maintenant, on sait aller vite, on sait accélérer la recherche vaccinale et ça, c'est une très bonne chose. Donc cette recherche-là va avancer. Il y a effectivement le vaccin contre Ebola Zaïre. Les données sont discordantes sur son efficacité potentielle sur l'espèce Bundibugyo. On essaye encore de savoir si c'est pertinent de l'utiliser ou non. Globalement, l'OMS recommande plutôt de ne pas l'utiliser, mais les chercheurs continuent à chercher des preuves, des idées, des informations scientifiques qui pourraient alimenter quelque part le débat et voir si ce vaccin peut être utilisé. Pour l'instant, on n'en sert pas lors de l'épidémie actuelle.
Il y a donc la question des vaccins et il y a la question des traitements dont le développement doit débuter en RDC, c'est ce que dit l'OMS. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Donc c'est deux potentiels traitements actuellement qui vont être évalués par l'OMS et les collègues de RDC. Ce sont deux médicaments, l'un qui est le remdesivir qui est un antiviral et l'autre qui est un cocktail d'anticorps monoclonaux, le MBP-134. Et donc ces deux médicaments ont montré leur efficacité en préclinique sur les souches Bundibugyo. Et donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut les évaluer chez des patients. Et là, c'est tout l'objet de cet essai thérapeutique qui va commencer dans les jours à venir. Il y a aussi d'autres essais en cours, notamment un autre essai qui, à mon sens, est assez important, en l'occurrence parce que si je le coordonne, si je peux me permettre, c'est que nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut certes traiter les patients, mais il faut aussi traiter les gens qui ont eu un contact très rapproché, comme je l'ai dit, avec des fluides corporels et des patients excrétants. Parce que si on arrive à s'arranger pour que ces gens-là ne deviennent pas positifs, on va beaucoup les aider individuellement, mais en plus, on va désengorger les centres de prise en charge et on va baisser la chaîne de transmission. Et donc, il y a vraiment ces deux volets sur la thérapeutique qu'il faut prendre en compte, le traitement des patients qui sont déjà malades et le traitement des gens qui ont eu des contacts à très haut risque. Et ça, c'est la prophylaxie post-exposition. Et l'essai EboPEP devrait commencer incessamment sous peu aussi au Congo.
Bon, c'est passionnant. Merci, docteur Marie Jaspard, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci à vous.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Nel Obeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.